Gustave Flaubert, œuvre de jeunesse, Rabelais. Jamais nom ne fut plus généralement cité que celui de Rabelais, et jamais peut-être avec plus d'injustice et d'ignorance. Ainsi, aux uns, il apparaît comme un moine ivre et cynique, esprit désordonné et fantastique, aussi obscène qu'ingénieux, dangereux par l'idée, révoltant par l'expression. Pour les autres, c'est toute une philosophie pratique, douce, modérée, sceptique, il est vrai, mais qui conduit après tout à bien vivre et à être honnête homme. Tour à tour, il a donc été aimé, méprisé, méconnu, réhabilité, et depuis que son prodigieux génie a jeté à la face du monde sa satire mordante et universelle qui s'échappe si franchement par le rire colossal de ses géants, chaque siècle a tourné, sous tous les sens, interprété de mille façons, cette longue énigme si triviale, si grossière, si joyeuse, mais au fond peut-être si profonde et si vraie. Son œuvre est un fait historique. Elle a par elle-même une telle importance qu'elle se lit à chaque âge et en explique la pensée. Ainsi, d'abord au XVIe siècle, lorsqu'elle apparaît, c'est une révolte ouverte, c'est un pamphlet moral. Elle a toute l'importance de l'actualité, elle est dans le sang du mouvement, elle le dirige. Rabelais, alors, est un Luther dans son genre. Sa sphère, c'est le rire, mais il le pousse si fort qu'avec ce rire, il démolit tout autant de choses que la colère du bonhomme de Wittenberg. Il le manie si bien, il le cisèle tellement bien dans sa vaste épopée, que ce rire-là est devenu terrible. C'est la statue du grotesque. Elle est éternelle comme le monde. Au XVIIe siècle, Rabelais est le père de cette littérature naïve et franche de Molière et de La Fontaine. Tous trois, immortels et bons génies, les plus vraiment français que nous ayons, jetant sur la pauvre nature humaine un demi-sourire de bonhomie et d'analyse, franc, libre, dégagé d'allure, homme, s'il en fut dans tout le sens du mot, tout droit insouciant des philosophes, des sectes, des religions, ils sont de la religion de l'homme, et celle-là, ils la connaissent. Ils l'ont retourné et analysé, disséqué, l'un dans des romans avec de grosses obscénités, des rires, des blasphèmes, l'autre au théâtre, dans ce dialogue si habilement coupé, si savamment vrai, si naïvement sublime, plus philosophe avec son simple rire de mascarille, avec le bon sens de Philinte ou la bile d'Alceste que tous les philosophes depuis qu'il y en a, et l'autre enfin avec ses fables pour les enfants, sa morale pour les hommes, avec son vers tout bonhomme et qui retombe sur l'autre vers, avec son mot, sa phrase, ce je ne sais quoi qui est le sublime, avec son sonnet cristallin, avec toutes les perles de poésie qui lui font un si large et si resplendissant collier. Mais déjà, Rabelais est devenu le sujet d'étude, l'auteur favori de quelques rares esprits en dehors du mouvement général. Outre ceux que nous avons cités, La Bruyère le goûte et l'apprécie avec impartialité. Mais il n'est pas assez correct pour le goût scrupuleux de Boileau, pour la réserve et la pureté de Racine. Ce siècle prude, gouverné par de Maintenon, est bien représenté dans l'anguleux et plat jardin de Versailles, avait déjà honte de cette littérature débraillée, bruyante, nue. Ce géant-là lui faisait peur. Il sentait bien qu'il se trouvait entre deux choses terribles pour lui, le XVIe siècle qui avait donné Luther et Rabelais, et la Révolution qui devait donner Mirabeau et Robespierre. Les démolisseurs de croyances avant, les démolisseurs de têtes après, deux abîmes au milieu desquels il se tenait guindé dans l'adoration de lui-même. Au XVIIIe siècle, c'est encore pis. Les philosophes sont de bon ton et ne veulent pas de Rabelais. Le pauvre curé de Meudon se serait trouvé déplacé dans le salon des marquises de Belles Esprits et dans les bureaux d'esprit de M. Dudéfant ou de M. Geoffrin. On ne comprenait pas cette verve de saillie, cet entrain, ce tourbillon, cette veine poétique palpitante d'inventions, d'aventures, de voyages, d'extravagances. Le petit goût musqué, réglé, froid du siècle, avait horreur de ce qu'il nommait le dévergondage d'esprit. Il aimait mieux celui des mœurs. Voltaire, en effet, n'excusera Blake que parce qu'il s'est moqué de l'Église. Quant à son style, quant au roman, il ne l'entend guère, quoiqu'il prétende cependant donner une clé. En résumé, il appelle son livre un amas des plus grossières ordures qu'un moine ivre puisse vomir. Il devait en être ainsi. La gloire de Rabelais, sa valeur même, comme celle de tous les grands hommes, de tous les noms illustres, a été vivement et pendant longtemps disputée. Son génie est unique, exceptionnel. C'est peut-être le seul dans l'histoire de littérature du monde. Où y trouverons-nous un rival ? Et d'abord, dans l'Antiquité, est-ce Pétrone, Apulée, avec leur art prémédité, mesuré, leur contour pur, leur savante conception ? Dans tout le Moyen-Âge, sera-ce dans les sigles épiques du XIXe siècle, dans les sottiles, les moralités, les farces ? Non, certes. Et quoique cependant, toute la partie matériellement comique de Rabelais appartienne à l'élément grotesque du Moyen-Âge, nous ne lui trouvons de prédécesseur dans aucun document littéraire. Et dans les temps modernes, son imitateur le plus exact, Bérald de Berville, l'auteur de l'art de parvenir, en est si loin qu'on ne peut le comparer à son modèle. Sterne a voulu le reproduire, mais l'affectation qui perce si souvent et la sensibilité raffinée détruisent tout parallèle. Non, Rabelais est unique parce qu'il est à lui seul l'expression d'un siècle, d'une époque. Il a tout à la fois, la signification littéraire, politique, morale et religieuse. Ces génies-là, qui créent des littératures ou qui enferment de vieilles, apparaissent de loin en loin, ils disent chacun leur mot, le mot de leur temps, et puis s'en vont. Homère chante la vie guerrière, la jeunesse vaillante et belliqueuse du monde, la verte saison, les arbres poussent. À Virgile, la civilisation est déjà vieille. Il est plein de larmes, de nuances, de sentiments, de délicatesse. Dante est sombre et rayonnant tout à la fois. C'est le poète chrétien, le poète de la mort et de l'enfer, plein de mélancolie et d'espérance. Ailleurs, dans les sociétés vieillies, quand la satiété est venue à tous, que le doute a gagné tous les cœurs et que toutes les belles choses rêvées, toutes les illusions, toutes les utopies sont tombées feuille à feuille, arrachées par la réalité à la science, le raisonnement, l'analyse, que fait le poète ? Il se recueille en lui-même. Il a de sublimes élans d'orgueil et des moments de poignant désespoir. Il chante toutes les agonies du cœur et tous les néants de la pensée. Alors, toutes les douleurs qui l'entourent, tous les sanglots qui éclatent, toutes les malédictions qui hurlent, résonnent dans son âme que Dieu a faite, vaste, sonore, immense, et en sortent par la voix du génie, pour marquer éternellement dans l'histoire la place d'une société, d'une époque, pour écrire ses larmes, pour ciseler la mémoire de ses infortunes. De nos jours, c'est Byron. C'est pour cela que le vrai poétique est plus vrai que le vrai historique, et que les poètes enfin mentent moins que les historiens. Les grands écrivains sont donc dans le cercle des idées comme les capitales dans les royaumes. Ils reçoivent l'esprit de chaque province, de chaque individualité, y mêlent ce qui leur est personnel, original. Il l'amalgame, il l'arrange, puis il le rend transformé dans l'art. Quand Rabelais vint à naître, c'était l'année 1483, l'année de la mort de Louis XI. Luther allait venir. Le roi avait abattu la féodalité, le moine allait abattre la papauté, c'est-à-dire tout le Moyen-Âge, le guerrier et le prêtre. Mais le peuple, lassé de l'un et de l'autre, n'en voulait plus. Il s'était aperçu que l'homme d'armes le mangeait et que le prêtre l'exploitait et le trompait de son côté. Longtemps, il s'était contenté d'inscrire ses railleries sur la pierre des cathédrales, de faire des chansons contre le Seigneur, de lâcher, comme dans le roman de La Rose, quelques mots mordants sur le pouvoir ou la noblesse. Mais il fallait quelque chose de plus, une révolte, une réforme. Le symbole était vieux, et même dans le symbole, le mystère, la poésie. Mais c'était un besoin général de sortir des entraves, d'entrer dans une autre voie. Besoin de la science, même besoin dans la poésie, dans la philosophie. Dès 1473, une caricature représentant l'Église avec un corps de femme, des jambes de poule, des griffes de vautour, une queue de serpent, avait couru l'Europe entière. C'était l'époque des Comines, de Machiavel, de l'Aretin. La papauté avait eu Alexandre VI, elle avait Léon X, qui ne valait guère mieux. L'orgie intellectuelle allait venir. Elle sera longue et finira avec du sang. Au XVIIIe siècle, elle s'est renouvelée et a fini de même. C'était donc au milieu de tels événements, dans une telle époque, que vivait Rabelais. Ne nous étonnons plus alors si, en présence de cette société toute chancelante sur ses bases, toute haletante de ses débauches, devant tant de choses démolies et devant tant de ruines, il se soit élevé à un immense sarcasme sur ce passé hideux du Moyen-Âge qui palpitait encore au XVIIIe siècle et dont le XVIIe siècle avait horreur lui-même. Qu'est-ce donc que Rabelais? Essayons de le dire. La mère de Gargantua le met au monde dans une indigestion qu'elle eut pour avoir mangé trop de foisse, car les héros sont de terribles mangeurs. Ils mangent si bien qu'ils affament le monde. Provinces, duchés, royaumes sont ravagés par leur vorace appétit. Voilà donc Gargantua qui vient au monde et dès qu'il voit le jour, il demande « À boire, à boire !» Son enfance est robuste, une enfance de géant. À un an, il chante des rondeaux. Ses gouvernantes le corrompent. Il est tout couvert d'habits de cour. C'est un vrai gentilhomme. On lui apprend la philosophie. Il controverse avec les sophistes, lit Pline, Athénée, Dioscoride, Galien, Aristote, Éon. Il apprend la géométrie, la musique, la médecine. Il joue à tous les jeux, s'amuse de toutes les façons, boit vigoureusement. Après la guerre qu'il soutint pour son père Grand Gousier contre Picrocole, quand il vint à se peigner, il faisait tomber de ses cheveux des boulets d'artillerie, et il avala dans une salade 6 pèlerins qu'il retira avec son cure-dent. Mais ce qu'il y a de plus beau dans le roman, ce ne sont point les inventions, les aventures, ni ce style si naïf à l'expression pittoresque, à la phrase si bien ciselée en relief. C'est le dialogue, le comique des caractères, les longues causeries philosophiques de Gargantua et du moine qui lui expliquent pourquoi les moines sont exclus du monde, pourquoi les demoiselles ont les cuisses fraîches, pourquoi les uns ont le nez plus plat que les autres, etc. Après tout, Gargantua est un bon diable, il fait grâce à ses ennemis, et sur ses vieux jours, il se retire dans le manoir des Télémites. Dans le roman de Gargantua, le caractère du héros domine presque exclusivement, les autres sont accessoires et vaguement définis. C'est surtout la force et la vigueur qui prédominent. Ce sont de joyeux buveurs, aux propos libertins, à la saillie franche, avec moins de malice sceptique et de satire mordante que dans Pantagruel. Gargantua, c'est tout entier l'homme de guerre, tel qu'il pouvait l'être vers 1520. Il commence à abandonner l'épée pour la plume, la cuirasse pour le bonnet. Pantagruel a une généalogie avouée, inscrite. Il est fils de tous les rois. Tous les géants, tous les grands hommes, mèdes, perses, persans, juifs, romains, grecs, héros antiques, paladins du Moyen-Âge, tous sont ses pères. Son propre père Gargantua avait lors de sa naissance 484 et 44 ans. Sa femme mourut en mal d'enfant, et pour baptiser Pantagruel, on employa l'eau de tout le pays, qui fut 36 mois, 7 semaines, 4 jours, 13 heures et quelque peu davantage, sans pluie. Pierre Gantua ne sait s'il doit se réjouir de la naissance de son fils ou se désoler de la mort de sa femme. Tour à tour, il rit, il pleure, il s'écrie « Oh, pauvre Pantin, Gruel, tu as perdu ta bonne mère, ta douce nourrice, ta dame très aimée. Oh, fausse mort, tant tu m'es malivole, tant tu es étrangeuse, de me tolérer celle à laquelle l'immortalité appartenait de droit. » Et se disant, pleurait comme une vache, mais soudain riait comme un veau, quand Pantagruel lui venait en mémoire. « Oh, mon petit-fils, disait-il, mon couillon, mon peton, que t'es joli, tant je suis tenu à Dieu de ce qu'il m'a donné, un si beau fils, tant joyeux, tant riant, tant joli. Oh, oh, que je suis aise, buvons. Oh, oh, laissons toute mélancolie, apporte du meilleur, rince les verres, boute la nappe, chasse les chiens, soupe ce feu, allume la chandelle, ferme cette porte, taille ces soupes, envoie ces pauvres bailleurs ce qu'ils demandent. Tiens, ma robe que je me mette en pourpoint pour festoyer les commères. » Puis il ajoute, « Ma femme est morte, moi je la ressusciterai pas par mes pleurs. Il faut mieux pleurer moins et boire davantage. » Pantagruel, dans son enfance, humait chaque jour le lait de 4600 vaches. On lui donnait sa bouillie dans un poêlon auxquels furent occupés tous les pessiers de Faubourg en Anjou, Villedieu en Normandie, Bravo en Lorraine. Il le brisa avec ses dents et mangea du cuivre. Il part à Paris, lit tous les livres de l'abbaye de Saint-Victor, devient docteur. Il prononce des jugements, se lie d'amitié avec Panurge, lequel était malfaisant, pipeur, buveur, batteur de pavés, rimeur s'il en était à Paris, au demeurant le meilleur fils du monde. Et toujours machinait contre quelque chose contre les sergents et contre le guet. Il obtient des pardons, marie les vieilles femmes, guérit les vaches. Il aime les grandes dames et fait le haut seigneur. Il accompagne Pantagruel et lui dit mille choses inconnues. Il triomphe pour lui sur un clerc d'Angleterre, venu exprès de son Berry pour arguer. Panurge va à la guerre contre les Dipsodes. Après la victoire, on lui accorde un évêché, mais il s'y conduit en laïc, mange son blé en herbe. Puis il veut se remarier, mais il a peur. Il se conseille à Pantagruel, il interprète les songes, les vers de Virgile, va consulter la Sibylle de Panzout, puis un poète nommé Ramina Grobis se consulte à tous ceux qui l'entourent, ses amis, les passants, tout le monde. Il rencontre frère Jean des Entomures, qui l'en détourne. Il demande des avis à l'hippopotame théologien, à Ronduilis médecin, à un philosophe platonicien, à un philosophe pyrrhonien. Il finit par en demander à Triboulet, et ne sachant que faire, il s'embarque pour aller consulter l'oracle de la dive bouteille. Il se munit de fortes provisions de bouche et part. Mais survient une tempête et il a peur. Il se recommande à Dieu et à tous les saints. Il pleure, sanglote, gémit, fait des vœux. Les nochiers eux-mêmes se démontent et abandonnent le navire autour de la tempête. Après l'ouragan, Panurge fait le bon compagnon et soutient qu'il n'a pas peur. Il se raille de Dieu et se moque de l'océan. Il visite toutes les nations et nulle part il ne rencontre ce qui est bon. D'abord il voit le pays de Chicanou, de là celui de Carême prenant, puis ils arrivent dans la contrée des Andouilles, commandée par Yves Landouille et Taïboudin. Ensuite ils vont dans l'une des Papes-Figues, puis dans celle des papimanes, ils vont toujours et jamais ils ne s'arrêtent. Pantagruel descend au manoir de Messire Gastler, premier maître essart du monde. Celui-là est le tyran universel, et nos héros lui obéissent encore plus qu'à d'autres. Il passe successivement dans l'île sonnante, où l'usage du carême déplaît souverainement à Panurge, et où les papigots règnent absolument. Il reste quelque temps, mais comme à toute heure, jour et nuit, on venait les réveiller pour boire, Pantagruel lui-même en est ennuyé. Il s'enfuit des terres de Rome, arrive dans le pays de Quintessence, et ce n'est qu'après avoir passé dans le pays de Satin, où ils firent oui dire qu'ils arrivent enfin à la dive bouteille, terme du voyage. Et dans toute cette longue course effrénée à travers le monde, ce qui domine, ce qui brille, ce qui retentit, c'est un éternel rire immense, confus, un rire de géant, qui assourdit les oreilles et donne le vertige. Moines, soldats, capitaines, évêques, empereurs, papes, nobles et manants, prêtres et laïcs, tous passent devant ce sarcasme colossal de Rabelais qui les flagelle et les stigmatise, et ils ressortent de dessous sa plume, tous mutilés et tous saignants. Il y avait derrière Rabelais tout un Moyen-Âge sombre et terrible. Les longues douleurs du peuple, ses haines contre le seigneur et contre le prêtre étaient vieilles, et depuis longtemps les croyances et les servitudes pesaient également. Mais la vieille société vivait encore, avec ses tyrannies pour le corps, ses entraves pour la pensée. Le seigneur était encore dans son donjon, le prêtre dans sa riche et grasse abbaye, le pape dans sa monstrueuse ville de Rome. Mais tout à coup, il survient un homme, et pour que la raillerie soit plus forte, un moine, qui se met à écrire un livre sans suite, sans forme, à la pensée vague, peut-être sans plan prémédité, sans idée fixe, mais plein de railleries mordantes et cruelles contre le seigneur, malgré son armée, contre le prêtre, malgré sa sainteté, contre le pape, malgré ses bulles. La vieille cathédrale gothique est toute dégradée, toute salie, toute souillée. Tout ce qu'on a jusqu'alors respecté depuis des siècles, philosophie, science, magie, gloire, renommée, pouvoir, idées, croyances, tout cela est abattu de son piédestal. L'humanité est dépouillée de ses robes de parade et de ses galons mensongers. Elle frémit toute nue sous le souffle impur du grotesque qui la sert depuis longtemps. Elle est laide et repoussante. Panurge lui jette à la tête ses brocs de vin et se met à rire. Et au milieu de tout cela, les aperçus les plus fins sur la nature de l'homme, les nuances les plus délicates du cœur, les analyses les plus vraies, des scènes qu'eût avoué Molière et qui font pas mal de rire nos aïeux qui avaient plus d'esprit que nous et qui lisaient les bons auteurs du bon vieux temps. Ce n'est ni la pointe acérée et aiguisée de Voltaire, avec son rire perçant, sa bile recuite, sa morsure envenimée, ni la colère naïve et déclamatoire de Jean-Jacques, ni les sanglots étouffés de Byron, ni la douleur réfléchie de Goethe. Non, c'est le rire vrai, fort, brutal, le rire qui brise et qui casse, ce rire-là qui, avec Luther et 93, a abattu le Moyen-Âge. Ceux qui ont prétendu donner de Rabelais des clés, voire des allégories à chaque mot, et traduire chaque lazzi, n'ont point, selon moi, compris le livre. La satire est générale, universelle, et non point personnelle ni locale. Une attention suivit dément vite cette vaine tentative. Citerai-je tout ce que le XVIe siècle a fait dans ce sens-là, et toute la boue qu'il a jetée sur le Moyen-Âge dont il était sorti? Ainsi, sans même parler de l'Arioste, Falstaff, Sancho, Gargantua, ne forment-ils pas une trilogie grotesque qui couronne amèrement la vieille société? Falstaff est à lui seul l'homme de l'Angleterre, de John Bull bouffi de bière forte et de jambon, gros, sensuel, se relevant d'entre les cadavres, tirant de sa gypsière un flacon de vieux vin d'Espagne. Ce n'est point le grotesque terrible d'Iago, ni l'immoralité raisonnée du mort absent de Schiller. Sa seule passion, c'est de s'aimer. Il la porte au plus haut degré, elle est sublime. C'est l'égoïsme personnifié avec un certain fond d'analyse et de scepticisme qu'il fait tourner à son profit. Quant au Pacifique, Sancho pensa, monté sur son baudet avec sa figure basanée et paresseuse, soufflant la nuit, dormant le jour, l'homme poltron, l'homme qui ne conçoit pas l'héroïsme, l'homme des proverbes, l'homme prosaïque par excellence. N'est-ce pas la raison, criant de toutes ses forces à Don Quichotte, d'arrêter, de ne pas courir après les moulins à vent qu'il prend pour des géants? Gentilhomme y court, mais il s'y casse, le bras s'y meurtrit, la tête. Son casque est un plat à barbe, son cheval rossilante, et l'âne du laboureur se met à braire devant son blason. Placé entre ces deux figures, celle de Gargantua est plus vague, moins précise. Les formes en sont plus amples, plus lâchées, plus grandioses. Gargantua est moins glouton, moins sensuel que Falstaff, moins paresseux que Sancho. Mais il est plus buveur, plus rieur, plus criard. Il est terrible et monstrueux dans sa gaieté. Le reste, Rabelais est une longue étude à faire. Il faut le connaître tout en entier pour en l'apprécier. Des analyses des extraits le mutilent et le gâtent. C'est en l'approfondissant que l'on verra tout ce qu'il y a de sève, de vigueur, d'imagination, de génie sous cette forme triviale et grossière. On s'étonnera de tant de diamants ensevelis, des forces de l'Hercule sous l'habit du bouffon. Une dernière réflexion qui termine. Rabelais n'a sondé que la société telle qu'elle pouvait être de son temps. Il a dénoncé des abus, des ridicules, des crimes et que sais-je, entrevu peut-être un monde politique meilleur, une société tout autre. Ce qui existait de lui faisait pitié et, pour employer une expression briviale, le monde était farce. Et il l'a tourné en farce. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Tout est changé. La réforme est venue, indépendante de la pensée. La révolution est venue, indépendance matérielle. Et encore, mille questions ont été retournées. Science, art, philosophie, théorie. Que de choses seulement depuis 20 ans. Quel tourbillon, mais où nous mènera-t-il? Voyez donc, où êtes-vous? Est-ce le crépuscule? Est-ce l'aurore? Vous n'avez plus de christianisme. Qu'avez-vous donc? Des chemins de fer, des fabriques, des chimistes, des mathématiciens? Oui, le corps est mieux, la chair souffre moins. Mais le cœur saigne toujours. L'âme, l'âme, la sentez-vous se déchirer, quoique l'enveloppe qui la renferme soit calme et bienheureuse. Voyez comme elle s'abîme dans le scepticisme universel, dans cet ennui morne qui a pris notre race au berceau, tandis que la politique bégaye, que les poètes à peine ont le temps de cadencer leurs pensées et qui la jettent à demi-écrite sur une feuille éphémère, et que la balle homicide éclate dans chaque grenier ou dans chaque palais qu'habitent la misère, l'orgueil, la satiété. Les questions matérielles sont résolues. Et les autres le sont-elles? Je vous le demande, dites-le-moi. Et tant que vous n'aurez pas comblé cet éternel gouffre béant que l'homme a en lui, je me moque de vos efforts et je ris à mon aise de vos misérables sciences qui ne valent pas un brin d'herbe. Vienne donc maintenant un homme comme Rabelais, qu'il puisse se dépouiller de toute colère, de toute haine, de toute douleur. De quoi rira-t-il? Oh, ce ne sera ni des rois, il n'y en a plus. Ni de Dieu, quoi qu'on n'y croit pas, cela fait peur. Ni des jésuites, c'est déjà vieux. Mais de quoi donc? Le monde matériel est fait pour le mieux, ou du moins, il est sur la voie. Mais l'autre, il aurait beau jeu. Et si le poète pouvait cacher ses larmes et se mettre à rire, je vous assure que son livre serait le plus terrible, le plus sublime qu'on ait fait.